Est-ce que du coup ces hormones elles ont une influence autre part dans le corps? C'est-à-dire que je ne sais pas si elles ont une influence sur le mental ou sur d'autres choses.
Alors, vraiment sur tout, Noémie.
Ouais, ah d'accord.
Ça va être ton rythme cardiaque,
Ah oui.
ça va être ta digestion, ça va être tes capacités de mémorisation, de concentration, ça va être justement l'équilibre sexuel, l'équilibre des hormones, notamment pour la fertilité, etc. Enfin, vraiment, la liste est très, très longue.
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti!
Aujourd'hui, on va s'intéresser à un petit organe souvent méconnu du grand public, mais qui influence beaucoup de fonctions corporelles puisqu'il joue un rôle crucial dans le métabolisme et dans la régulation hormonale. On va bien sûr parler de la thyroïde. Je dois avouer que je ne savais pas du tout ce que c'était jusqu'en 2021, au moment du lancement de notre complexe développé avec le docteur Richter du Centre de la thyroïde à Berlin. Et là, j'ai dû faire pas mal de recherches pour me rendre compte que les maladies de la thyroïde sont très répandues, surtout chez les femmes, et peuvent avoir un impact important sur la santé. Un diagnostic précoce de la prévention et des méthodes de traitement modernes sont essentielles pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées. Pour en savoir plus sur l'organe thyroïdien et toutes ses facettes, je suis avec Valérie Nguyen Van. Bonjour Valérie.
Bonjour Noémie.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Healthwise. Tu es naturo depuis 2014 et tu es spécialisée dans l'accompagnement naturel des dysfonctionnements. On peut citer les dysfonctionnements digestifs, nerveux et hormonaux qui englobent donc les troubles liés à la thyroïde. Et tu mets un point d'honneur sur la formation et la recherche pour comprendre les rouages et les dérèglements de terrain. Mais ce qui m'a surprise, c'est sur ta présentation de consultation, tu écris « safe place » dans les 5 premiers mots de ta description. Donc, si t'offres une safe place pendant tes consultations toute la semaine, c'est quoi ta safe place à toi le dimanche?
Ça, c'est une très bonne question. Déjà, safe place dans la présentation pour la prise de rendez-vous, parce que je pense que c'est important que les personnes sentent qu'elles peuvent s'exprimer complètement, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur orientation sexuelle, etc., etc. Donc déjà, ça, pour moi, c'est très important de le placer dès le départ. Et ma safe place à moi. Alors, ma safe place pour me ressourcer, j'en ai plusieurs, en fait. Mes safe places, ça va être le yoga, par exemple, le sport. J'ai vraiment besoin de faire du sport de façon régulière,
ouais.
Exactement. La sieste, très important,
ah oui,
la sieste.
Le repos,
oui, vraiment. Ça va être des activités de loisirs diverses et variées. Moi, j'aime bien faire plein de choses. Donc, ça peut être aussi bien du karting que des balades,
les
etc.,
sorties,
etc. Voilà, tout ce qui me fait du bien, en fait, ce sont des safe places pour moi.
Trop bien. J'ai pu citer le moment exact, moi, où je me suis intéressée à la thyroïde. Est-ce que tu te souviens, quand est-ce que tu as éprouvé un premier intérêt pour cet organe?
Oui, oui, oui. Alors, c'est quelque chose qui est devenu assez central. Je dirais dès la première année de mon exercice en tant que naturopathe.
Donc après ta formation plutôt.
Exactement, après ma formation. C'est vrai qu'on en avait parlé en formation, mais une fois qu'on est sur le terrain, on ne perçoit pas les choses de la même façon. Et en fait, au départ, moi, je me suis retrouvée à travailler beaucoup sur des cas d'endométriose. Mmh. Et j'avais remarqué à travers les bilans que ces clientes m'amenaient qu'il y avait justement des dysfonctionnements thyroïdiens. Donc de là, j'ai vraiment souhaité me former et comprendre davantage comment fonctionne cet organe.
Et au final, comment tu t'es formée? Est-ce que tu as fait beaucoup de recherches? Est-ce que tu es retournée à la base de la biologie?
Oui, mais c'est exactement ça, la base. Donc j'ai repris les cours de naturo.
Ouais.
Ensuite, j'ai acheté des livres destinés aux étudiants en médecine pour vraiment approfondir les choses. Et après, j'ai fait des formations avec des médecins qui font de la médecine fonctionnelle. Parce que l'intérêt, justement, c'est que comme nous, ils cherchent les causes de troubles et de dysfonctionnements. Donc,
ouais.
Les formations étaient vraiment très intéressantes. Et puis après, bien sûr, de la veille scientifique
ouais.
via Internet, où là, on a vraiment tout plein d'infos très intéressantes.
Trop bien. Et bah, du coup, moi, je connais vraiment vaguement la thyroïde. Est-ce que tu pourrais nous faire une sorte de petit cours, la thyroïde pour les nuls? Je sais que c'est un peu compliqué parce qu'il doit y avoir plein de choses à dire, mais au moins qu'on puisse comprendre à quoi ça sert, les influences, ce genre de choses.
Mais avec plaisir.
Oui.
C'est vrai que c'est très important de comprendre parce qu'après, on peut mieux envisager sa prise en charge.
Ouais.
Voilà. Donc, avant de parler de la thyroïde, on va d'abord parler du cerveau.
OK.
Voilà. Parce qu'en fait, au niveau du cerveau, on va avoir une arrivée importante d'informations, qu'elles soient nerveuses ou hormonales. Et toutes ces informations vont arriver au niveau de l'hypothalamus. Mmh. Et l'hypothalamus, lui, il va justement absorber toutes ces informations et organiser des réponses adaptatives retour, qu'elles soient nerveuses ou hormonales.
Comment ils les organisent, du coup, ces réponses? Est-ce qu'ils passent par quelque chose d'autre ou
Alors, en fait, pour ce qui est du système nerveux, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, mais pour ce qui est des hormones, il va déléguer, en fait, à l'hypophyse, qui a la taille d'un petit pois dans le cerveau, et qui est vraiment le chef d'orchestre du système hormonal. Donc, l'hypophyse, elle va donner des informations aux différentes glandes. Donc, ce sont les organes qui produisent des hormones. Et justement, ces glandes vont pouvoir elles-mêmes produire des hormones. Donc en fait, l'hypothalamus produit une hormone à destination de l'hypophyse, et l'hypophyse va produire des hormones à destination des glandes, et les glandes vont produire leurs propres hormones qui seront à destination de l'ensemble de l'organisme. Donc c'est une première étape.
Sorry, je pose encore des questions.
Non, mais t'en fous.
Elles sont où ces glandes?
Alors, on va en avoir un peu partout dans le corps. On va avoir notamment la thyroïde, les surrénales, on va avoir des glandes aussi au niveau du système digestif, etc. Donc ça va déterminer tout le fonctionnement du corps humain, en définitive. Donc une fois qu'elle reçoit les informations en provenance de l'hypophyse, du coup elle va pouvoir produire des hormones thyroïdiennes.
Ah d'accord.
Voilà, et ce sont elles qui vont déterminer énormément de choses dans l'organisme, dont le métabolisme, etc. Je t'expliquerai tout ça après avec plaisir aussi. En tout cas, dans la thyroïde vont se former déjà des hormones, notamment la T4 et un tout petit peu de T3, donc les hormones thyroïdiennes. Voilà.
Et elles se forment à partir de quoi ces hormones? C'est des informations? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter pour faire tout, du coup ce mélange?
Alors, les informations arrivent et à partir de là, on va avoir justement des éléments qui vont permettre la formation d'hormones thyroïdiennes. Donc, on va avoir notamment de l'iode, qui est un minéral, et puis de la L-tyrosine, donc qui est un acide aminé issu des protéines, d'où l'importance d'avoir une alimentation bien équilibrée. Donc, en fait, l'iode et la L-tyrosine vont se rencontrer et se lier sous l'action d'une enzyme. Et ça va permettre la formation de l'hormone T4, qui est une hormone inactive. Donc voilà comment ça se passe. Et ensuite, cette hormone T4, ainsi qu'un petit peu d'hormone T3, vont se disséminer dans le corps. Et ensuite, ces hormones T4 vont se transformer en hormones T3, qui sont les hormones actives.
Mmh.
Voilà, sous l'influence d'une autre enzyme, qui s'appelle la 5-désiodase ou DIO2. On en reparlera tout à l'heure, parce que je pense que c'est intéressant d'en parler. Et ces hormones, une fois qu'elles sont dans les tissus périphériques, vont justement dire, entre guillemets, aux tissus périphériques comment ils doivent fonctionner, à quel rythme, etc. etc.
Est-ce que, du coup, ces hormones, elles ont une influence autre part dans le corps? C'est-à-dire que, je ne sais pas si elles ont une influence sur le mental ou sur d'autres choses?
Alors, vraiment sur tout, Noémie.
Ouais, d'accord.
Ça va être ton rythme cardiaque, ça va être ta digestion, ça va être tes capacités de mémorisation, de concentration, ça va être justement l'équilibre sexuel, l'équilibre des hormones, notamment pour la fertilité, etc. Enfin, vraiment, la liste est très, très longue. Est-ce que tu veux que je t'en cite encore ou
Je pense que c'est bien de savoir un peu la thyroïde, où est-ce qu'elle a des fonctions pour que ce soit un peu plus facile aussi de mettre des mots peut-être sur des symptômes ou sur des choses où on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas bien, on va dire.
Oui, tout à fait. Alors, on parlait par exemple du système digestif. Mm-hmm. Au niveau du système digestif, par exemple, les hormones T3, elles vont induire la production d'acide chlorhydrique, qui est quand même indispensable pour la digestion des protéines. Donc, elles vont avoir ce rôle-là et elles vont avoir aussi un rôle sur le péristaltisme intestinal. Mm-hmm. Voilà, donc qui est le mouvement de l'intestin pour faire descendre le bol alimentaire. Donc, si on n'a pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes, ben déjà, le début du process digestif est mis à mal et on va se retrouver avec des problématiques de transit, des problématiques de dysbiose, etc. Ça, c'est un exemple. Après, dans d'autres liens de cause à effet, par exemple, on va avoir un effet des hormones T3 sur la conversion, par exemple, du cholestérol en hormones stéroïdiennes. Donc, les hormones stéroïdiennes, ce sont les hormones surrénaliennes et les hormones sexuelles. Donc, si on a une problématique de thyroïde, on peut ne pas convertir correctement le cholestérol en hormones et avoir tous les troubles, justement, en lien avec ces hormones. Donc, ça va être au niveau des surrénales, manque d'énergie, etc. Et puis, évidemment, au niveau sexuel, on va avoir des troubles, tout ce qui est équilibre, œstrogène, progestérone et bien d'autres hormones. Il n'y a pas que celle-là. Enfin voilà, il y a tellement d'exemples que je pourrais te donner. En fait, quand je suis en rendez-vous et que les personnes viennent avec des problématiques, la question que je me pose toujours, c'est est-ce qu'il y a un lien avec la thyroïde dans ce que la personne me raconte ?
Tout de suite.
Tout de suite. Parce que souvent, les gens viennent non pas pour une, mais pour plusieurs raisons. Mm-hmm. Et c'est toujours intéressant de voir si ces raisons peuvent avoir un lien entre elles et justement par rapport à la thyroïde.
Mm. Du coup, c'est un point central quand même important de tous les dérèglements, choses qui pourraient poser problème dans l'organisme.
Oui, c'est central et c'est un réglage vraiment très fin et qui est propre à chacun. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'écouter la personne, ses ressentis, ce qu'elle perçoit et ce qu'elle vit vraiment. Mmh. C'est très important d'écouter tout ça parce qu'effectivement, la thyroïde souvent est derrière.
Mmh. Tu voulais dire un truc, vas-y.
Oui, parce que du coup, ta question de départ, c'était comment fonctionne la thyroïde. Tu vois, une fois qu'on a utilisé les hormones thyroïdiennes dans l'organisme, ensuite, elles vont revenir au niveau du cerveau et le cerveau va avoir l'information de comment on a utilisé les hormones thyroïdiennes. Et à partir de là, on continue le cercle que je t'ai décrit au départ où, à nouveau, l'hypothalamus reçoit les informations et organise les réponses adaptatives. Normalement, c'est censé être un cercle vertueux, mais qui peut aussi se transformer en cercle vicieux.
Dans le temps.
Effectivement.
Il y a beaucoup de gens qui connaissent la thyroïde, parce que quand on fait des bilans sanguins, on voit toutes les hormones avec T, TSH, T3, T4, etc. Est-ce que tu peux nous éclairer comment ces hormones-là, elles sont testées, en fait ?
Oui, alors au niveau des bilans sanguins, ça, c'est vraiment une question très intéressante que tu poses parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais on ne va pas le faire. Mais c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire. Pour éclairer simplement les gens qui nous écoutent, ce qui est dosé en tout premier lieu, c'est la TSH, donc l'information en provenance de l'hypophyse pour la thyroïde. Donc ça,
c'est la première roue.
Oui, c'est exactement ça. C'est ce que le médecin va prescrire en première intention. Ça va donner une idée de globalement comment est-ce que ça va, comment est-ce que ça fonctionne. Ensuite, comme je te l'ai expliqué précédemment, donc la thyroïde va former les hormones T4. Mm-hmm. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir ce dosage-là. Et ensuite, il faudrait doser les hormones T3 parce que comme les T4 se transforment en T3 pour le côté actif en fait, ce serait bien de doser les T3 pour voir si
la deuxième partie, quoi.
Voilà, tout est bien actif. À ce niveau-là, le problème, c'est que aujourd'hui, tout est très très réglementé. Donc, on va avoir une prescription pour la TSH. Et là, en fait, le delta en matière de résultats est très large. Et sincèrement, je peux dire trop large. Parce que
c'est pas assez précis.
C'est pas assez précis du tout. Déjà, la mesure de la TSH, c'est pas une mesure précise de comment ça fonctionne dans l'organisme. Mmh. Voilà. En plus, ça peut varier si tu as passé une mauvaise nuit, si tu as des perturbations diverses et variées, ça peut modifier ta TSH. Donc, c'est vrai que pour avoir vraiment une vue d'ensemble, il faut vraiment doser non seulement la TSH, mais les T4, les T3. Il y a aussi une autre dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est la T3 reverse, pour en parler après. Et puis, le dosage des cofacteurs. Mais pour revenir au langage purement médical, n'étant pas médecin, je peux quand même en parler parce que je suis dessus tous les jours. Donc tout à l'heure, je te parlais du delta, je reviens à ce fameux delta, parce que la fourchette est très large. Or, moi, j'ai observé, comme beaucoup de mes confrères et de médecins, que les gens sont bien, en général, avec une TSH, on va dire, qui va entre 1,7 et 2,2. Mais pareil, ça dépend de chacun. Or, quand on a des normes qui sont beaucoup plus larges, on peut être finalement dans le delta, mais ne plus être dans ses propres normes et avoir déjà des symptômes d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie. C'est pas encore avéré. Donc, quand on est dans l'entre-deux, c'est ce qu'on appelle fruste. Donc, on peut avoir de l'hypothyroïdie fruste ou de l'hyperthyroïdie fruste. Voilà.
Donc ça, fruste, en fait, c'est quand il n'y a pas... On ne rentre pas encore dans les cases des
pathologies.
Labos,
quoi. Ouais. Exactement. Tu n'es pas encore dans la pathologie, mais pour autant, ça ne va quand même pas super bien. Quoi.
Voilà. Donc, d'avoir les symptômes sans avoir les normes.
Tu es dans les normes, mais tu as quand même plein de symptômes.
Ah, oui.
Donc, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué d'être pris au sérieux dans ces cas-là, parce que souvent, la réponse qui vient en face, c'est dans votre tête.
Ouais. Et du coup, la deuxième partie, comme on la voit pas dans les bilans, vu qu'on fait pas les bilans, est-ce qu'il peut y avoir aussi des problèmes dans cette partie-là? J'imagine des problèmes de conversion active, etc.
Mais complètement. En fait, ce que je te disais, c'est on voit l'endose, la TSH. Si tu es dans les clous, ça va pas plus loin. Si tu es un peu dans le doute, parfois le médecin, mais il faut que lui-même attende 6 semaines. Il y a c'est très très normé tout ça. Il faut qu'il attende 6 semaines pour refaire
un plus
de
test.
Sang pour la TSH et les T4. Mais après, pour avoir par exemple maintenant un bilan T3. C'est le parcours du combattant, en fait, si tu n'as pas une pathologie avérée. Et c'est là où on se dit, mais comment est-ce qu'on peut avérer la pathologie, puisque finalement, on ne va pas chercher plus loin. Donc, à la limite, vaut mieux aller faire le bilan soi-même et dire le payer de sa poche et dire, voilà, je veux faire ça. Effectivement, ce qui serait aussi judicieux et pertinent, c'est de doser tous les cofacteurs qui permettent le fonctionnement thyroïdien. Donc, ça va être évidemment l'iode, mais ça peut être le fer, ça peut être le magnésium, toutes les vitamines du groupe B, par exemple, la vitamine A, la vitamine C, le sélénium. Tout ça, ce sont des cofacteurs qui contribuent au fonctionnement thyroïdien. Donc, une thyroïde qui dysfonctionne, c'est bien d'essayer de comprendre pourquoi en allant chercher justement où au niveau des cofacteurs il y a peut-être un souci, une carence ou un excès.
C'est quoi du coup les sortes de troubles qu'on peut avoir? Tu disais hypo ou hyperthyroïdie. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on peut essayer de diagnostiquer?
Oui, il y a une panoplie.
Ah ouais.
Oui, vraiment. Donc, il y a effectivement l'hypothyroïdie, qui est l'hypofonctionnement thyroïdien, ça fonctionne au ralenti, ou l'hyperthyroïdie, donc hyperfonctionnement thyroïdien, où tout fonctionne en accéléré, donc tout ce qui va avec, dans différents axes au niveau de l'organisme. Après, on peut avoir, par exemple, pour l'hypothyroïdie, ce qu'on appelle une thyroïdite d'Hashimoto. Donc là, on a un problème d'hypothyroïdie couplé à des problématiques d'anticorps. C'est-à-dire que là, les anticorps se retournent en fait contre la thyroïde. Voilà. Pour l'hyperthyroïdie, là, ça peut aller jusqu'à la maladie de base d'eau, où effectivement, de nouveau, on va avoir d'autres anticorps cette fois-ci, mais qui vont se retourner de la même façon contre la thyroïde. Donc là, c'est vraiment problématique, parce qu'on est dans la maladie auto-immune.
Ça vient d'où, ce problème d'anticorps? On ne sait pas trop ou...
Alors, il y a plusieurs raisons. Je pourrais citer les problématiques intestinales et aussi les problématiques virales, par exemple.
Ouais.
Ça, on peut revenir après dessus, si tu le souhaites. Mais surtout les problématiques intestinales et virales. Après, dans les autres problématiques de thyroïde, on peut avoir par exemple la thyroïdite de Kervin ou thyroïdite subaiguë. Donc là, c'est une inflammation de la thyroïde qui est liée justement à une infection virale, en général ORL. Là, c'est transitoire en fait, mais la personne va quand même avoir un moment d'hyperthyroïdie, ensuite d'hypothyroïdie, donc ça fait le yo-yo. Et puis, ça finit par se stabiliser au bout de quelques mois. Sinon, dans les autres problématiques que je pourrais citer, il y a par exemple les nodules thyroïdiens. Les nodules thyroïdiens, donc on peut les objectiver par échographie. En général, la thyroïde augmente de volume. Donc là,
donc on le sent en fait, oui, quand on se fait tâter.
Oui, ou même la personne peut ressentir une pression dans la gorge, des difficultés à la déglutition, des douleurs dans le cou, etc. Donc là, effectivement, il faut aller faire une échographie pour voir s'il y a un ou des nodules, sachant que ça peut être des nodules vraiment pas dangereux, comme des nodules, par contre, qu'on appelle toxiques, qui là, ils sont complètement autonomes, eux, ils vont se mettre à former des hormones thyroïdiennes tout seuls, de leur côté, en plus de la thyroïde, donc c'est un peu catastrophique. Et puis, ça peut, bien sûr, aboutir à un cancer de la thyroïde, hein. Ça, c'est vraiment le cas le plus extrême, où là, en plus, on peut avoir ce qu'on appelle des métastases iodofixantes. Donc là, c'est vraiment problématique.
Tu parlais tout à l'heure des cofacteurs, qu'il fallait faire tester les cofacteurs.
Oui.
Et que même, il y a les hormones de la thyroïde qui sont liées à des nutriments, des minéraux, des acides aminés. J'ai vu qu'il y avait aussi des liens avec le fer et les vitamines B. En fait, c'est quoi le rôle des micronutriments vis-à-vis de la thyroïde et de ces hormones ?
Alors, tu vas avoir des nutriments qui vont participer à la formation d'hormones thyroïdiennes et tu vas avoir des micronutriments qui vont servir à la conversion des hormones thyroïdiennes. Donc, dans les deux cas, de toute façon, ils sont indispensables. Ouais. Mais vraiment, c'est pour ça que le dosage est tout autant indispensable. Mmh. Après, on peut parler de la vitamine D qui, elle, n'est pas là pour faire fonctionner la thyroïde, mais qui est importante justement par rapport aux maladies auto-immunes. Voilà, puisqu'en fait, la vitamine D, elle va avoir un rôle régulateur sur le système immunitaire. Donc, c'est vraiment important de prendre de la vitamine D, non seulement pour le système osseux, on le sait, mais aussi pour le fonctionnement immunitaire.
Et du coup, c'est quoi les micronutriments où tu sais que ça a un rôle important dans la thyroïde ?
J'ai envie de te dire tous.
Tous,
mais oui, tous, parce qu'ils ont tous leur rôle. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de l'iode, qui se lie à la L-tyrosine. Après, les vitamines du groupe B, le fer, etc., ça va être vraiment pour la conversion des hormones T4 en T3. Il y a le molybdène aussi, dont on parle assez peu.
Ouais.
Par exemple, le molybdène, il est très, très important aussi pour formation, conversion des hormones thyroïdiennes. Et puis après, tu as aussi des cofacteurs qui fonctionnent ensemble. Donc, s'il y en a un qui est en carence, l'autre, ça ne va pas être mieux.
Aussi, ouais.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant.
Donc en fait, il faut prendre soin de sa santé en général et de faire attention à plein de nutriments. Est-ce qu'il faut aussi prendre soin de sa santé mentale pour prendre soin de sa thyroïde ?
Oui. Alors, en fait, quand tu parlais de nutriments, c'est intéressant de rebondir là-dessus parce que quand on parle de nutriments, bien sûr, on pense à l'alimentation, mais aujourd'hui, l'alimentation, elle est très, très pauvre en nutriments à cause des conditions en fait, dans lesquelles on produit les aliments. Donc aujourd'hui, c'est compliqué de passer à côté d'une supplémentation.
Donc on est obligé de se complémenter.
Vu ce que j'observe tous les jours sur des bilans biologiques, je peux t'assurer que oui. Mmh. Ouais, vraiment, vraiment. Et après, prendre soin de sa thyroïde, effectivement, il y a tout l'aspect émotionnel qui entre en jeu, effectivement.
Et même, j'ai lu que la thyroïde agit comme un filtre de stress.
Oui. Alors, on peut considérer ça comme ça, dans la mesure où, la thyroïde, finalement, va répondre, aux stimulations du système nerveux. Parce que toutes les stimulations, au départ, arrivent par le système nerveux, toutes les informations, etc. Et si tu veux, le système nerveux, c'est la première réponse adaptative.
Mmh.
Et ensuite, la thyroïde, c'est le relais, c'est la deuxième réponse adaptative. Mais quand le système nerveux a fait son travail, effectivement, la thyroïde va prendre le relais et en ça, elle va aussi permettre une adaptation au stress. Le problème, c'est quand tout ça, ça devient chronique. Parce que normalement, c'est censé durer que quelques minutes. Si tu veux un message de danger, que ce soit un danger réel, le bus qui t'arrive dessus, ou un danger, je dirais, émotionnel, pour le cerveau, lui, c'est le même message. Il y a danger. Donc, à partir de là, il faut organiser une réponse. Donc, la réponse nerveuse, c'est quelques minutes, mais la réponse hormonale, ça va durer plusieurs heures. Et la chronicité fait que, au bout d'un moment, il y a tout qui se dérègle, et le système nerveux, et le système hormonal, tout simplement par épuisement. Donc oui, on peut dire que la thyroïde est un filtre de stress, mais ça a tout de même sa limite. Effectivement, comme on vient de le voir, après, on peut tomber dans des dysfonctionnements, des pathologies vraiment importantes.
Il y a le docteur Richter que je citais tout à l'heure qui estime qu'un tiers de la population a des nodules thyroïdiens et qu'un tiers souffre de maladies auto-immunes de la thyroïde, comme Hashimoto ou Basedow qu'on a cité aussi. Ça voudrait dire qu'il y a 2 personnes sur 3 qui pourraient avoir une forme de trouble thyroïdien. Moi, ça me paraît énorme. Est-ce que toi, ça te paraît réaliste ?
Oui.
Vraiment ?
Vraiment, c'est ce que je constate aussi à travers des rendez-vous que j'ai tous les jours.
Ouais.
Vraiment.
C'est vraiment commun.
Oui, oui, oui. Et finalement, bah, c'est lié à ce dont je te parlais, hein, les carences en nutriments, la malbouffe, la surcharge émotionnelle, la surcharge mentale, la surcharge physique aussi. Et puis après, il y a d'autres éléments aussi hein, qui peuvent intervenir. On voit bien, depuis quelques décennies, des accidents nucléaires, etc. Voilà, on sait très bien que ça va influencer, que tout ça, ça n'a pas de frontières et que bien au-delà des frontières, forcément, les gens vont avoir aussi un impact sur leur thyroïde. D'ailleurs, quand il y a des accidents nucléaires, on devient aux gens de prendre de l'iode.
Oui.
Voilà.
Et les pharmacies sont obligées d'en avoir.
Exactement.
En stock,
ouais. Exactement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses, oui, qui font que je dirais que la plupart des gens, finalement, sont impactés et souvent sans même le savoir parce que, on va faire de la bobologie. Ah, vous avez ça, donc on va travailler sur le ça, mais on se demande pas pourquoi il y a ça. Et souvent, derrière, c'est la thyroïde.
Et souvent, du coup, c'est les femmes qui sont touchées.
Oui.
Et surtout les femmes de plus de 50 ans, j'ai l'impression. Est-ce que le vieillissement a un impact sur la santé thyroïdienne ?
Oui. Je te fais des petits oui parce que
c'est trop triste.
Mais oui, c'est vrai que pour le coup, les femmes sont vraiment impactées. Déjà, d'une façon globale, elles ont un fonctionnement très thyroïdien, les femmes. On y reviendra après quand on parlera de l'émotionnel, tout ça, j'ai envie de t'en parler aussi. Mais c'est vrai que les femmes, déjà, ont un fonctionnement plus lié à la thyroïde que les hommes. Mais ce qui se passe aussi, c'est que quand on arrive en préménopause, il y a un ralentissement du métabolisme. Donc déjà, il y a un ralentissement de la thyroïde. Il y a également une moins bonne réception du signal TSH qui fait que ben, là aussi, hein, ça facilite pas non plus le métabolisme et le fonctionnement de l'organisme en général. La problématique, c'est que ben, souvent, les problématiques thyroïdiennes passent inaperçues parce qu'on met tout sur le dos de la préménopause, ménopause. Donc, des fois, on ne va pas forcément en chercher plus loin, alors que, ben, en réalité, si on commençait par regarder ce qui se passe au niveau de la thyroïde, eh ben, on aurait déjà beaucoup moins de symptômes liés à la ménopause.
Et du coup, c'est important de faire une surveillance quand même biologique ?
Oui, très. Moi, je pense que c'est une surveillance qui devrait être faite vraiment de façon régulière. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas en France, c'est compliqué.
Du coup, comme on met ça sur le dos de la préménopause ou de la ménopause, il y a souvent des femmes qui prennent des traitements hormonaux. Est-ce que ça peut modifier le fonctionnement de la thyroïde, vu qu'on a vu que c'était lié aux hormones ?
Alors, si c'est un traitement hormonal avec des œstrogènes que l'on met par voie topique, donc sur la peau, il n'y a pas de souci. Par contre, quand c'est par voie orale, mais bon, c'est quand même plus rare, effectivement, ça va avoir une modification par rapport au transporteur des hormones thyroïdiennes. Donc, je dirais que moi, ça me pose plus question, par exemple, par rapport aux femmes plus jeunes qui prennent la pilule.
Forcément. Parce que là, forcément, il y a
et oui, puisque, un blocage. Voilà, effectivement, ça va modifier la prise en charge des hormones thyroïdiennes par leurs transporteurs. Et ça s'est modifié, en fait, par les œstrogènes. Voilà, donc on peut avoir une baisse des hormones thyroïdiennes.
Je reviens un peu aux troubles qu'on a vus, du coup, qui sont très courants. Et il y a récemment pas mal de stars qui ont révélé leurs problèmes de thyroïde. Je pense à Laura Felpin qui a annoncé son cancer de la thyroïde, à Julie Zenati qui parle de sa thyroïdite d'Hashimoto, mais aussi des troubles que le grand public connaît pas du tout. Du coup, on a vu Basedow, hypo, hyperthyroïdie. Je savais pas du tout à l'époque. Pour moi, c'est bizarre. Du coup, que ce soit hyper courant, hyper fréquent, mais qu'on n'en parle pas trop. Et surtout, on n'est pas trop éduqué aux troubles, aux symptômes qu'on peut lier à la thyroïde. Ça peut paraître un peu flou, même pour nous. Est-ce que tu peux nous donner un peu les différents signes pour qu'on puisse peut-être se poser des questions et justement faire les démarches ensuite ?
Oui, 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 vraiment. Alors, si on parle d'hypothyroïdie, même hypothyroïdie fruste, hein, déjà dans les premiers signes, hein, on peut citer, par exemple, ben, la perte de cheveux. On peut citer la peau sèche, les yeux secs, les ongles cassants. On peut parler, par exemple, du rythme cardiaque qui se modifie. Il va être beaucoup plus, enfin, plus lent, en tout cas. Pour l'hypothyroïdie, on va avoir, par exemple, de la fatigue, des coups de barre, voire même une fatigue chronique qui peut s'installer, des troubles du sommeil. Ça contribue à la fatigue, évidemment. Et puis, des apnées du sommeil. Voilà, souvent, on ne fait pas le lien, mais apnée du sommeil, souvent, veut dire problème d'hypothyroïdie ou hypothyroïdie fruste. Voilà.
Et le poids, peut-être ?
Alors, effectivement, le poids. Alors, bien que pour l'hypothyroïdie, normalement, c'est la prise de poids qui prime, mais on voit aussi des personnes perdre du poids en hypothyroïdie. Après, ce qu'on peut observer, c'est bien évidemment des problèmes digestifs. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Voilà, des problèmes au niveau de l'estomac qui gonfle après les repas, des difficultés de transit. On va avoir des alternances de constipation et selles à peu près normales, voire une constipation importante. Et puis ça aboutit à une dysbiose après, donc des développements de bactéries dans les intestins. Donc là, c'est encore d'autres problématiques, mais ça peut aboutir à des maladies auto-immunes, par exemple. On peut citer encore la frilosité, par exemple. On peut citer encore justement un impact sur tout ce qui est hormonal. Voilà, donc notamment sur les hormones sexuelles. Donc ça va amener à des problèmes, par exemple, de libido, de lubrification. Ça peut amener aussi
sur
à des problèmes
règles.
De problèmes de règles. Et puis, des problèmes de fertilité, bien évidemment. On va avoir aussi un impact, par exemple, sur le système osseux. Et ça va être très important, par exemple, pour des fœtus, des enfants. Donc, si déjà, il y a un problème chez la maman d'hypothyroïdie, déjà, ça va être compliqué de tomber enceinte. Mais en plus, il peut y avoir des retards de croissance ou ce genre de choses.
Et comment on fait la différence avec Hashimoto et avec base d'eau?
Là, c'est vraiment sur bilan biologique parce que c'est les anticorps, en fait, qui vont permettre d'objectiver ça. Et après, à l'inverse, tu as l'hyperthyroïdie. Donc, on va retrouver des choses, je dirais, communes dans les deux cas. Donc, tu vois, par exemple, les troubles digestifs, sauf que là, tu ne seras pas constipé. Par contre, ça va être plutôt un transit accéléré, ça va être des diarrhées, des choses comme ça. On va retrouver des troubles hormonaux. On va retrouver la chute des cheveux, par exemple. Et puis, par contre, à l'inverse, les gens qui sont en hyper, ils vont avoir chaud, le rythme cardiaque accéléré. Nervosité. Ah oui, c'est vrai, tiens, j'ai oublié pour l'hypothyroïdie. Souvent, c'est confondu, par exemple, avec de la déprime, de la dépression, alors que non, en fait, c'est un problème d'hormone. À l'inverse, en hyper, c'est vrai que là, on va avoir des gens qui seront très agités, nerveux, qui vont démarrer au quart de tour.
Avec des problèmes de sommeil, peut-être.
Des problèmes de sommeil, bien évidemment, les mains qui tremblent. Ça, c'est vraiment le cortège de réjouissance qu'on peut trouver avec, effectivement, un base d'eau s'il y a des anticorps.
Et au final, ça peut vraiment impacter le quotidien. C'est des choses qui sont vraiment compliquées. Si tu as des problèmes de sommeil, forcément, après, le lendemain, c'est compliqué.
Complètement.
Pour aller à la selle, pour vivre, en fait.
Oui, pour travailler, parce que tu vas avoir, dans un cas comme dans l'autre, des problèmes de mémoire, de concentration. Donc, tu dors mal. Tu n'es pas forcément de l'humeur que tu voudrais. Tu arrives au travail, tu n'arrives pas à assumer correctement ton travail. À côté de ça, au niveau hormonal, les règles ne sont peut-être pas comme il fallait. Tu vas avoir des problèmes de fertilité. Enfin, ça peut impacter vraiment le quotidien. Tu vas aux toilettes, ça ne se passe pas comme tu veux. En fait, la thyroïde peut vraiment devenir un enfer quand elle n'est pas équilibrée. Et comme je te le disais tout à l'heure, cet équilibre, il est propre à chacun. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de très très fin. Donc quelque chose qui peut paraître normal chez l'un, le même dosage hormonal chez l'autre ne donnera pas du tout la même
chose.
Effectivement.
Justement, j'ai interrogé un peu notre communauté pour savoir un peu s'il y avait des choses qu'elles vivaient qui étaient similaires ou non. Et j'ai reçu quand même pas mal de témoignages, donc merci à celles qui nous ont répondu. Déjà, avec les réponses que j'ai reçues, le diagnostic a été fait entre 2 et 4 ans, ce qui est déjà pas trop mal, je trouve. Et souvent, les symptômes, en fait, ils ont été minimisés par les professionnels de santé. Au début, voire seulement attribué au stress, à la fatigue ou même au baby blues. Tu disais la dépression tout à l'heure. La personne, en fait, on lui a dit que c'était normal après un accouchement et qu'une femme, ça se plaint tout le temps. Une autre qui raconte qu'en insistant auprès de son médecin, on lui aurait dit qu'il faudrait qu'elle arrête de regarder les infos et que ça servait à rien de faire autre chose que de prendre du Levothyrox. Bref, du coup, c'est pas facile en fait de savoir ce qui se passe dans son corps si on sent qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'au final on met ça de côté. On peut parler peut-être même de troubles invisibles. Alors, en fonction des symptômes, du coup, c'est quoi les étapes? Tu nous disais d'abord premier bilan TSH. Ensuite, est-ce qu'on fait d'autres bilans, une échographie? C'est le médecin qui doit montrer la marche à suivre, non?
Oui. Alors, il y a plein de choses dans ce que tu m'as dit. Ouais. Mais la première sur laquelle je voudrais vraiment faire un petit commentaire, mais qui a son importance, c'est que effectivement aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui ne sont pas écoutées. Il y a malheureusement des professionnels de santé, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, hein, mais il y a des professionnels de santé qui n'écoutent pas en fait les gens, qui ne sont pas réceptifs en fait et qui ne cherchent pas à comprendre réellement ce qui se passe. Et depuis plus de 10 ans que j'exerce, j'ai recueilli de nombreux témoignages de maltraitance médicale. On peut vraiment parler de maltraitance médicale où effectivement les gens ne sont pas pris au sérieux et ils sont culpabilisés, ridiculisés. Perso, je trouve ça terrible parce que du coup, la personne, elle n'a même pas envie d'aller chercher plus loin. Elle se dit, on arrête
c'est
tout.
C'est fini, il faut que je vive comme ça, quoi.
Exactement. Et puis, bien des années plus tard, on se rend compte que, c'était pas dans sa tête. Ouais. Voilà. Donc, pour en revenir à la marche à suivre la plus pertinente, bien évidemment, aller voir son médecin pour avoir des bilans sur lesquels s'appuyer. Ne pas hésiter à demander justement les dosages de cofacteurs. Tant pis, il faut faire le forcing, il ne faut pas hésiter. Certains sont remboursés, d'autres pas. C'est dommage de faire l'économie, très, très honnêtement. Par exemple, l'iodurie des 24 heures, pour savoir si on a assez de diode pour faire fonctionner notre thyroïde, ce n'est pas remboursé. Ça coûte à peu près 35-37 euros. Donc oui, ça peut paraître cher, mais c'est quand même une des premières nourritures de la thyroïde. Donc c'est dommage de faire l'impasse. Donc une fois qu'on a ces premiers résultats, effectivement, voir pour les T4... et puis là, voir ensuite, bien sûr, pour les T3, pour voir si ça se convertit bien ou pas. Et effectivement, là, il y a quand même quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin, j'ai juste évoqué, mais il y a quelque chose qui est très, très important, c'est cette fameuse enzyme, en fait, qui permet la conversion des T4 en T3. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle un polymorphisme génétique de la désiodase ou de la DIO2, auquel cas, ces personnes-là, en fait, ne pourront jamais convertir correctement leur T4 en T3. Donc, même si on leur donne un traitement type Levothyrox, etc., à base de T4, en fait, elles pourront jamais faire correctement de la T3. Donc, ces personnes-là, elles vont se dire, zut, je suis sous traitement, mais ça va pas forcément super mieux, quoi. Donc, ça, c'est très, très important de faire cette recherche-là parce que, en fonction, on va faire toute une adaptation. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau médical, on va pouvoir donner de la T3 de synthèse en complément d'un peu de T4. Et puis, on va aussi adapter l'alimentation parce que ces personnes-là vont avoir une alimentation différente. Il faut savoir que, par exemple, la digestion des glucides nécessite beaucoup de T3. Donc, si on n'a pas beaucoup de T3, comment digérer les glucides, notamment les céréales? C'est plein de questions comme ça qui se posent. Pour finir, par rapport à ta question, évidemment, est-ce que la thyroïde, ça sert? Est-ce que ça grossit? Donc là, c'est là où le médecin devra prescrire une échographie ou un examen plus approfondi, si effectivement c'est tendancieux, quoi.
Du coup, tu disais, il faut pas que des fois, si on fait ça bien, on voit que c'était pas dans notre tête. Et tu disais aussi en préparant l'émission que 70% des cas, dans 70% des cas, les troubles de la thyroïde arrivent d'un processus de somatisation. Donc, ça voudrait dire que ça vient de nos émotions.
Oui, les émotions, elles peuvent durer dans le temps. Et le problème, c'est que petit à petit, comme on a vu tout à l'heure, les réponses adaptatives, la chronicité, etc., ça va créer des dérèglements, aussi bien sur l'axe hypothalamo-thyroïdien que sur l'axe hypothalamo-surrénalien. Donc oui, nos émotions, effectivement, vont avoir un impact très important. C'est En fait, thyroïde, ça vient du mot latin thyroïdes, et ça signifie bouclier. Donc symboliquement, c'est le bouclier de l'âme, en fait. Ouais. Et c'est vrai que ce soit en médecine traditionnelle chinoise, en ayurvédique, etc., c'est un organe central. En fait, ça se trouve dans la gorge, hein, la thyroïde. Et ça va être vraiment tout ce qui concerne en fait l'expression de soi, l'expression des émotions. Voilà. Ça va être aussi comment je définis ma place dans ce monde qui m'entoure. Hein, ça va être aussi tout ça, la thyroïde. Et puis, ça va être comment j'exprime ce que j'ai à exprimer.
Du coup, si on n'arrive pas à digérer, à avaler quelque chose, ça reste bloqué, quoi.
Exactement. Et toutes ces émotions, en fait, que l'on garde en soi, vont finalement se retourner contre nous-mêmes, jusqu'aux maladies auto-immunes, hein, les retournements immunitaires. Souvent, on fait le lien avec des émotions qu'on a retournées contre soi. Y a des différentes grilles de lecture, par exemple, en naturopathie, dont une qui est celle des typologies glandulaires. Donc, glandes, c'est hormones. Et on va avoir, par exemple, les surrénaliens, qui sont des gens très cartésiens, très dans le mental, etc. On va avoir les surrénaliens, qui sont des gens, eux, très terre-à-terre. C'est noir, c'est blanc. Il n'y a pas de nuance, en fait. Hein, Et puis, on va avoir les thyroïdiens. Donc, les thyroïdiens, ce sont des gens qui vont être vraiment très sensibles à tout ce qui les entoure, qui vont beaucoup absorber en fait tout ce qui les entoure, qui vont beaucoup se poser de questions par rapport à leur place dans ce monde. Ils ont l'impression qu'ils sont pas adaptés en fait au monde dans lequel ils vivent. Souvent, ils ont l'impression d'être un peu comme des extraterrestres en fait sur cette terre. Ce sont des gens qui sont très sensibles à l'art, à l'harmonie, ce genre de choses. Donc tu peux imaginer l'impact pour ces gens-là d'une thyroïde en difficulté. Ouais. Il va y avoir des difficultés de communication, il va y avoir un manque de créativité. Hein, les thyroïdiens sont très créatifs, donc manque de créativité. Ça va être, je parlais par exemple de la difficulté à s'exprimer, des gens qui vont passer pour des hystériques. C'est juste qu'en fait, ils sont en proie avec leurs émotions et qu'au niveau de la thyroïde, y a un déséquilibre, ça part dans tous les sens, des problèmes de concentration, etc., comme pour les autres, mais encore plus chez ces gens-là. En fait, la thyroïde, c'est vraiment l'émotivité, voire l'hyper-émotivité.
Tu parlais aussi tout à l'heure des maladies auto-immunes et des virus. Je vais reparler encore une fois de mon expérience ici, mais j'ai eu le virus d'Epstein-Barr il y a 5 ans et mon corps était KO. Et depuis, c'est pas vraiment le même, en fait. Même si les analyses, elles sont normales, je ressens encore beaucoup de symptômes et tout. Et c'est pas forcément lié à la thyroïde directement, mais j'ai entendu dire que ce genre de virus pouvait se loger dans des organes comme la thyroïde ou le foie et potentiellement perturber l'équilibre global du corps. Est-ce qu'on connaît un peu mieux l'impact de ces virus dormants ou réactivés sur le fonctionnement hormonal comme celui de la thyroïde?
Alors effectivement, tu parlais d'Epstein-Barr virus, qui est le virus de la mononucléose. Hein. Lui, il a été objectivé scientifiquement qu'il se loge dans les tissus thyroïdiens. Donc ce n'est pas parce que sur le papier, on n'a plus la mononucléose que le virus n'est plus là.
Ouais.
Voilà. Donc tu peux avoir confrontation avec un autre virus qui va amener à une baisse du système immunitaire. Et là, réactivation virale, et hop, coucou qui revoilà, Epstein-Barr virus. Et on l'a bien observé d'ailleurs avec le Covid.
Ouais.
Oui, il y a eu beaucoup de réactivation virale d'Epstein-Barr virus avec le Covid.
C'était au moment du Covid, exactement. Donc,
voilà.
Il y a 5 ans.
Je fais partie de ton club. J'ai expérimenté aussi ça. Et c'est vrai que on va se retrouver avec non seulement le Covid, mais aussi les symptômes de la mononucléose. C'est sympatoche, non, vraiment.
Un bon mix.
C'est ça. Et malheureusement, on ne fait pas forcément toujours la recherche de réactivation virale. Alors que ça pourrait être fait. Donc moi souvent je demande aux gens, est-ce que vous avez eu enfant, ado ou adulte la mononucléose, parce que des fois justement je me dis
okay.
On peut observer ça aussi avec des virus comme Non, je dirais plutôt des bactéries, tu vois, comme ouais. Yersinia ou la borréliose dans la maladie de Lyme. Voilà, ça peut aussi avoir un impact sur la thyroïde. Et puis, on peut citer aussi la candidose, hein, que les gens connaissent de plus en plus, qui est une affection fongique au niveau des intestins. Clairement, lui, il va se servir des nutriments dont la thyroïde a besoin à son profit. Donc, derrière, la thyroïde va ramer.
En parlant de nutriments, j'aimerais parler de la carence en iode. Qui peut être à la fois une cause et une conséquence des troubles de la thyroïde. À la radio, il y a le docteur Jimmy Mohamed qui disait que la carence en iode peut augmenter les cancers de la thyroïde. Mais il dit que cette carence est exceptionnelle en France. Alors pourquoi faut faire quand même attention à l'iode, même si c'est rare?
Alors, l'iode, comme je disais tout à l'heure, c'est une des premières nourritures de la thyroïde. Et en fait, quand on parlait des T4, en fait, c'est parce que c'est une hormone qui contient 4 atomes d'iode. Donc, au niveau de l'alimentation, on va avoir l'iode qui arrive, et dans le corps, c'est stocké sous forme d'ion iodure. Mais aujourd'hui, moi je suis désolée, mais je constate que beaucoup de personnes sont en carence d'iode, ou même si elles ne sont pas en carence, elles sont vraiment dans les limites basses. Ça, j'en vois toutes les semaines. Mais vraiment, parce que j'ai les bilans des gens sous les yeux. Donc... pour le coup, je peux pas rejoindre son propos. Et pour le coup, je trouve que il est vraiment et comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, hein, je me répète, mais vraiment important de faire le dosage de l'iode pour voir où on en est et éviter effectivement des problématiques.
Parce que ça peut entraîner grave, plein de choses, quoi.
Tout à fait.
Est-ce qu'on prend du coup de l'iode avec du sélénium toujours ou juste de l'iode?
Alors, faire un dosage. Tu vois, c'est souvent les gens disent « Oh, tiens, je vais prendre un peu de ci, je vais prendre un peu de ça, je vais faire ma soupe. » Mais en définitive, ils peuvent se retrouver à prendre des choses dont ils n'ont pas besoin. Donc, finalement, à dépenser de l'argent pour c'est des choses dont ils n'ont pas besoin. Ouais. Donc, vaut mieux aller d'abord faire les bilans et se dire « Ok, je manque de ça, donc je prends ça. » Mais ça va surcharger l'organisme de prendre des choses dont il n'a pas besoin et ça peut amener aussi des dérèglements. Hein, c'est pas parce que c'est de la supplémentation que c'est anodin.
Et pour les traitements, j'ai vu dans les témoignages qu'il y avait beaucoup de patients d'hypothyroïdie qui se sentaient mieux après avoir commencé le traitement à base de L-thyroxine, donc des hormones thyroïdiennes de synthèse. Mais plusieurs disent ne jamais se sentir comme avant la maladie et certains symptômes comme la prise de poids, la fatigue, la frilosité, la chute de cheveux, voilà, ça reste. Et en parallèle, il y a plusieurs thérapeutes qui disent que la prescription d'hormones synthétiques est parfois trop rapide, parce que seul le taux de TSH il est mesuré, là, comme on disait, sans considérer d'autres paramètres et de l'évolution dans le temps. Du coup, avant de prescrire des hormones ou des compléments, c'est quoi les approches naturelles qu'on peut mettre en place?
Alors, ben, toujours la même réponse, j'ai envie de te dire. Faire des bilans, objectiver les carences, pour pouvoir avoir justement la supplémentation adaptée. Donc déjà, à partir de là, on peut voir si la thyroïde se remet à fonctionner correctement. La thyroïde ne fonctionne pas correctement, comme j'ai dit tout à l'heure, chercher si ce n'est pas l'histoire de la conversion des T4 en T3, chercher s'il n'y a pas des histoires de nodules, etc. Mais déjà, essayer de tout chercher et mettre en place pour qu'elle refonctionne normalement. Je dirais que la supplémentation doit être vraiment un dernier recours. Pour moi, la supplémentation, c'est vraiment une thyroïde qui est quasi morte, entre guillemets, ou quelqu'un qui a eu une thyroïdectomie, justement. Donc là, effectivement, on ne peut pas faire l'impasse des hormones thyroïdiennes.
Je suis allée chercher des produits. Quand j'ai lu les réponses de la communauté, il y avait une question qui disait « Qu'est-ce qui vous a aidé au quotidien pour soulager ou réduire les symptômes du trouble ?» Et il y a une personne qui a répondu « Le complexe équilibre thyroïdien de Sunday, baisse de la TSH, incroyable, et maintien très correct depuis. Est-ce que tu peux regarder le complexe et me dire pourquoi ça pourrait affecter la TSH ?
Oui, alors, c'est vrai que ce complexe, il est hyper intéressant. Moi, personnellement, je l'adore. Il est intéressant parce qu'il va agir non seulement sur l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien, mais aussi sur l'axe hypothalamo-surrénalien. Et comme on a vu, la thyroïde, finalement, répond au système nerveux. Donc, si on régule le système nerveux, eh ben, on va forcément arriver à la régulation de la thyroïde, d'autant plus que dedans, on a des cofacteurs justement du fonctionnement thyroïdien, comme notamment la L-tyrosine, la vitamine A, le sélénium, etc. Donc, en fait, c'est un produit qui est assez globale et en même temps avec des petites spécificités qui font qu'il est vraiment très intéressant. Effectivement, il donne de très, très bons résultats.
Et il y a des champignons dedans. Est-ce que oui. Les champignons, c'est utile ?
Oui, les champignons sont vraiment utiles dans le sens où on a par exemple le cordyceps, qui est le champignon de l'énergie. On en a besoin quand on est en hypothyroïdie, par exemple. On va avoir le reishi, qui lui va, en fait, de façon naturelle, avoir une action sur l'équilibre thyroïdien. Voilà. Je dirais que la mycothérapie est toujours intéressante parce que c'est de la régulation de terrain. Avant tout, voilà. Après, sur les plantes qu'on peut trouver, on va avoir des plantes adaptogènes. Donc là, c'est vraiment la résistance au au niveau du système nerveux. Donc l'adaptation à la vie, au quotidien. Et puis les plantes adaptogènes ont toujours un côté antioxydant qui est très intéressant parce que déjà la thyroïde, de par son fonctionnement, génère beaucoup de stress oxydatif. Donc il faut des antioxydants pour pallier à ce stress oxydatif, parce que le stress oxydatif amène de l'inflammation en fait. Et l'inflammation, pour fonctionner, elle a besoin de vitamines, etc. Donc qui sont entre autres des cofacteurs du fonctionnement thyroïdien. Ouais. Voilà, donc l'idée en fait, c'est vraiment de faire en sorte que la thyroïde fonctionne au mieux de tous les axes que l'on puisse regarder.
Il y a aussi de la rhodiole qui est antioxydante dedans.
Exactement, et adaptogène, de l'ashwagandha. Qu'est-ce qu'on a
la
encore
dedans ? La schisandra.
Oui, effectivement, la schisandra aussi. Toujours pareil, adaptogène, antioxydante. En fait, c'est l'association qui est vraiment bénéfique. Après, il y en a certaines qui vont avoir des actions un petit peu plus spécifiques, comme par exemple la schisandra, si ma mémoire est bonne, elle va être très intéressante pour les problèmes d'anémie. Voilà.
Est-ce que tu as d'autres phytonutriments que tu recommanderais pour la santé de la thyroïde ?
Bah, tout dépend du terrain, du tableau. Voilà, il y en a beaucoup. Je regarde toujours la personne dans sa globalité, mais aussi dans ses spécificités. Et en fonction, je vais adapter. Alors, effectivement, on peut trouver des complexes comme celui-ci, mais dans certains cas, voilà, effectivement, je pourrais le coupler, par exemple, avec de la vitamine D. Dans d'autres cas, je pourrais coupler avec des vitamines du groupe B. Ça pourrait être avec du fer aussi. Quand on a un manque de fer, forcément, on ne va pas convertir correctement les hormones thyroïdiennes. Ça ne va pas aller, donc il faut absolument du fer. C'est vrai que l'anémie, c'est un gros problème pour la thyroïde. Et là, pareil, c'est un cercle vicieux, parce que si la thyroïde ne fonctionne pas bien, on va avoir toutes les problématiques qui s'en suivent.
En dernière question, je voulais juste te donner les conseils que notre communauté qui du coup est touchée a écrit et j'aimerais que juste tu me les valides ou pas voilà. Le premier conseil, c'est écouter votre corps, soyez attentif aux changements inhabituels, fatigue, prise de poids, essoufflement.
Je valide, c'est la base.
Ensuite, c'est ne vous limitez pas à la médecine classique, les approches alternatives comme la naturopathie peuvent compléter efficacement la prise en charge.
Tout à fait. Et par contre, bien se renseigner en ce qui concerne les naturopathes, de la formation qu'a suivi le naturopathe. Le médecin, c'est OK. Mais par contre, aujourd'hui, on sait qu'en naturopathie, on peut trouver un peu toutes sortes de thérapeutes. Donc là, bien faire attention au cursus qui a été suivi, les formations.
Ensuite, faites-vous accompagner par un professionnel de confiance, médecin, endocrinologue ou naturopathe. Voilà.
Tout à fait, je valide.
supplémentez-vous intelligemment. L'iode, le sélénium, le magnésium, les oméga-3 sont souvent nécessaires, car l'alimentation moderne ne suffit pas toujours.
Je valide également. Donc après bilan, vous l'avez tous bien compris, je pense.
Bien répété. demandez du coup des bilans si vous sentez un mal-être inexpliqué et persévérez jusqu'à trouver l'origine.
Oui.
Donc vraiment, ne pas lâcher.
Oui, vraiment, je valide complètement ça. Il ne faut pas lâcher. Vraiment, il faut aller taper à toutes les portes jusqu'à ce qu'on ait toutes les réponses à toutes les questions. Voilà, il y a des gens qui peuvent vous aider.
Merci beaucoup pour ton expertise sur le sujet. Merci encore aux femmes qui ont partagé leur témoignage pour cet épisode. On espère que ça offrira une pierre à l'édifice de la prévention, une meilleure sensibilisation aussi autour de cet organe aux multiples pouvoirs et facettes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Healthwise. En attendant, prenez soin de vous avec Sonde Naturelle. Je voulais te poser une question aussi.
Oui.
C'est quoi tes compléments préférés pour toi ?
Ah, alors mes compléments préférés pour moi, alors c'est la D3K2. Voilà.
Ensemble.
Ben oui, parce que là, ça y est, hein, j'ai 50 ans la semaine prochaine, ah, donc la K2 est obligatoire avec la D3. Les oméga 3, bien évidemment. Ouais. J'aime beaucoup la créatine parce que, ben, comme je fais du sport pour voilà, la récupération, ouais. Oui, la récupération sportive, c'est top. Et puis, ben évidemment, équilibre thyroïdien parce que, ben comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein, aussi Epstein-Barr virus, Covid, ouais. Tout ça. Donc ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et puis après, ponctuellement, en fonction des choses que j'ai envie d'essayer ou ouais. De mes besoins, hein, voilà. Mais c'est vrai que la gamme Sunday propose vraiment plein de choses et on peut vraiment trouver de quoi aller mieux.